écoutez Radio France Internationale, il est 23h en temps universel, 1h ici à Paris.
Victor Moria.
Il demande un cessez-le-feu immédiat au Proche-Orient. Les 88 États de l'Organisation internationale de la francophonie, dont la France, le Canada, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ont signé unanimement un message lu par le président français lors de la clôture du 19e sommet de l'OIF. Emmanuel Macron, qui s'est également prononcé en faveur de l'arrêt des livraisons d'armes pour les combats israéliens à Gaza. Cette intervention qui fait vivement réagir le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui parle de honte alors que les bombardements se poursuivent dans le sud du Liban, mais aussi sa capitale Beyrouth. À quelques jours des 1 an du début de la guerre, le gouvernement libanais annonce que plus de 2000 personnes ont été tuées par l'agression israélienne. Dans l'actualité également, une manifestation pour la justice climatique tourne au blocage dans la capitale européenne, Bruxelles. Et une bonne nouvelle pour la famille d'Ali Farka Touré, le Grammy Award de l'artiste malien, dérobé la semaine dernière, a été retrouvé. Les combats continuent de faire rage au Liban entre le Hezbollah et l'armée israélienne. Les deux belligérants ont poursuivi toute la journée les échanges intenses de tirs de roquettes et de raids aériens au sud du Liban, bastion du mouvement chiite, mais aussi au sud de Beyrouth, son fief politique, où de violentes frappes aériennes israéliennes ont été signalées ce soir par l'agence de presse libanaise, qui note également la présence de drones de reconnaissance israéliens volant à basse altitude. Cela fait suite à plusieurs appels dans la soirée lancés par l'armée israélienne à la population libanaise de quitter ses quartiers. Selon les médias libanais, les frappes ont ciblé notamment les studios de la chaîne Al-Manar, affiliée au Hezbollah, situé dans le quartier dit des Américains de Beyrouth. Par ailleurs, une source de sécurité libanaise citée par des agences de presse indique que Hachem Safieddine, pressenti pour succéder à Hassan Nasrallah, est injoignable depuis des raids israéliens survenus dans la banlieue sud de Beyrouth. C'était vendredi. Au total, Israël revendique un bilan de 440 membres du Hezbollah tués depuis le début de son offensive terrestre lundi. De son côté, le gouvernement libanais vient de publier son décompte depuis le début de la guerre, le 8 octobre 2023. L'agression israélienne aurait tué 2036 personnes et blessé près de 10 000 autres, explique le communiqué. Dans ce contexte, les 88 pays de l'Organisation internationale de la francophonie, réunis en sommet en France jusqu'à ce soir, demandent unanimement un cessez-le-feu immédiat et durable au Liban. Le Canada, la Belgique, la République démocratique du Congo ou encore le Sénégal se joignent donc à l'appel lu par le président français ce soir, Nicolas Roca.
Alors que l'un des États fondateurs de la francophonie est sous le feu des frappes israéliennes, impossible de faire l'impasse sur la crise au Proche-Orient. Celle-ci a été omniprésente durant les 2 jours de sommet. Après de longues tractations et malgré leurs divergences, les membres de l'OIF se sont entendus sur un texte de solidarité pour le Liban. Ils plaident pour un cessez-le-feu et condamnent les actions indiscriminées contre les civils. Mais la déclaration ne mentionne pas explicitement Israël. La délégation libanaise se dit satisfaite du texte, mais espérait une condamnation claire des frappes et de l'offensive terrestre de l'État hébreu sur son sol. Une position éloignée de celle de la Roumanie, de l'Albanie ou du Canada, qui ont émis certaines réserves à une résolution sur les crises mondiales. Celle-ci fait mention d'Israël, mais pour rappeler l'obligation de protéger la population palestinienne en zone occupée et de permettre l'accès aux secours. Emmanuel Macron est lui allé plus loin. S'il a annoncé qu'il recevrait les familles des victimes franco-israéliennes du 7 octobre, son appel à cesser les livraisons d'armes à Israël a provoqué de vives réactions.
Et comme le disait à l'instant Nicolas Roca, la nouvelle position française demandant la fin des livraisons d'armes à Israël pour un usage à Gaza a fait bondir le Premier ministre israélien qui a répondu au président Macron dans une vidéo publiée à peine quelques heures après.
J'ai un message pour le président Macron. Aujourd'hui, Israël se défend sur 7 fronts en même temps contre les ennemis de la civilisation. Nous nous battons à Gaza contre le Hamas, ces sauvages qui ont assassiné, violé, décapité et brûlé nos concitoyens le 7 octobre dernier. Nous nous battons au Liban contre le Hezbollah, l'organisation terroriste la plus lourdement armée au monde, qui prévoyait un massacre encore plus important que celui du 7 octobre sur notre frontière nord et qui vise Israël avec ses roquettes depuis pratiquement 1 an. Nous nous battons contre les Houthis au Yémen et contre les milices chiites en Irak et en Syrie et qui lancent des centaines de drones et de missiles contre Israël. Nous nous battons contre les terroristes en Judée, en Samarie, des terroristes qui tentent d'assassiner des civils au cœur de nos villes. Enfin, nous nous battons contre l'Iran qui, la semaine dernière, a tiré plus de 200 missiles balistiques directement sur Israël. Et alors qu'Israël combat les forces de la barbarie dirigées par l'Iran, tous les pays civilisés devraient se tenir fermement à ses côtés. Pourtant, le président Macron et d'autres dirigeants occidentaux appellent maintenant à des embargos sur les armes contre Israël. Honte à eux.
La France a fait savoir dans la foulée qu'elle regrettait, je cite, les propos excessifs de Netanyahou, assurant rester l'ami indéfectible d'Israël. Benjamin Netanyahou, qui a également échangé ce soir des menaces avec l'Iran, assurant qu'Israël allait répondre à l'attaque au missile lancé par Téhéran contre l'État hébreu, c'était le 1er octobre. Israël a le devoir et le droit de se défendre et de répondre à ces attaques, explique-t-il. De son côté, l'Iran déclare qu'il réagira encore plus fort à une riposte israélienne. Pour chaque action, il y aura une réaction proportionnelle et similaire de l'Iran, et même plus forte, a prévenu le chef de la diplomatie iranienne. Malgré ces bouleversements et le risque d'escalade au Proche-Orient, les marchés financiers occidentaux ont eux terminé la semaine en hausse, portés notamment par les bons chiffres de l'emploi américain. Seuls les marchés pétroliers sont fébriles. Claire Fage.
D'un côté, les investisseurs saluent en cette fin de semaine les 254 000 créations d'emplois du mois de septembre aux États-Unis. Alors qu'ils tablaient sur un recul, la forte hausse des embauches rassure les marchés financiers sur la capacité de l'économie américaine à atterrir en douceur. C'est ce qui a propulsé l'indice Dow Jones à un nouveau record à Wall Street. Les bourses de Paris, Francfort, Milan et Londres avaient précédemment fini dans le vert également. Mais en parallèle, l'inquiétude grandit du côté des marchés pétroliers depuis les attaques de missiles et de drones iraniens contre Israël. L'État hébreu ripostera-t-il en frappant les infrastructures énergétiques en Iran ? Malgré les appels à la mesure du président américain, l'Iran ou ses alliés bloqueront-ils le détroit d'Ormuz par où transite un cinquième du commerce mondial de brut ? La peur de manquer de pétrole a fait bondir de 9% les cours rapprochés du Brent cette semaine à plus de 78 $ le baril, alors qu'ils étaient tendanciellement à la baisse.
Claire Fage sur RFI. Au moins 18 morts et des dizaines de disparus après les inondations inédites dans le sud-ouest de la Bosnie-Herzégovine. Les recherches se poursuivent pour retrouver les survivants, mais le bilan pourrait encore s'aggraver. La montée des eaux hier soir a provoqué d'importants glissements de terrain. Des ponts, des routes et des voies ferrées ont été emportés. Les eaux commencent seulement à se retirer, mais de nombreuses routes menant aux villes touchées restent bloquées et de vastes zones sont encore couvertes de débris. Non aux subventions pour les énergies fossiles dans l'Union européenne. C'était le mot d'ordre d'une manifestation organisée samedi après-midi dans les rues de Bruxelles, la capitale. La marche a réuni entre 300 et 400 personnes à l'initiative d'une trentaine d'organisations réunies sous la bannière Unie pour la justice climatique. Une marche donc, mais aussi une opération coup de poing avec le blocage d'un boulevard important du centre-ville. Le reportage est signé Jean-Jacques Herry.
Alors que le défilé s'ébranle devant le Parlement européen, à un kilomètre de là, en plein centre-ville, 150 militants écologistes s'assoient d'un coup au milieu du boulevard botanique. En quelques secondes, ils bloquent la circulation.
On s'exprime de tous les moyens possibles et la manifestation est un moyen qui est génial, qui permet à tout le monde de participer. Et les blocages sont aussi importants pour montrer notre détermination.
La Suédoise Greta Thunberg est présente, ainsi que de nombreux militants venus de toute l'Europe. Camille d'Extinction Rébellion explique le sens de leur action aux passants.
On ne voit pas pourquoi on utilise l'argent des citoyens à subsidier des pollueurs.
Un chiffre est répété, celui de 171 milliards d'euros de subventions versées aux énergies fossiles dans l'UE en 2022. Dans ces conditions, Morgan, porte-parole de United for Climate Justice, a du mal à croire au pacte vert européen et à la neutralité carbone pour 2050.
Et ces subventions, ça fait que les énergies fossiles peuvent continuer, qu'il y a toujours des gaz à effet de serre qui sont émis, ce qui a des conséquences désastreuses au niveau de la crise climatique. On voit que ça a des effets très importants, qu'il y a des catastrophes naturelles, qu'il y a des personnes qui meurent à cause de ça et ça va seulement aller en s'aggravant par la suite.
Après une heure d'action, plusieurs militants, dont Greta Thunberg, ont été interpellés par la police. En parallèle, la marche pacifique a réuni entre 300 et 400 personnes. Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
En Hongrie, des milliers de personnes se sont rassemblées à Budapest devant le siège de la radio et de la télévision publique. Elles exigeaient la fin de ce qu'elles qualifient de propagande gouvernementale dans les médias depuis le retour au pouvoir du Premier ministre nationaliste Viktor Orban en 2010. Depuis, de nombreux médias indépendants en Hongrie ont fait faillite, ont été transformés en organes pro-gouvernementaux, tandis que les médias publics ont été contraints de suivre la ligne du parti au pouvoir. La manifestation était organisée par le parti TISA du chef de l'opposition Peter Magyar. Et au Mali, pour terminer ce journal, une bonne nouvelle, le soulagement pour la famille d'Ali Farka Touré. Son Grammy Award, décerné en 1995 pour Talking Timbuktu et volé la semaine dernière, a été rapporté dans la nuit devant la concession familiale à Bamako. Le fils d'Ali Farka Touré, vieux Farka Touré, avait lancé un appel dans la presse malienne et sur notre antenne hier. Le prix, cassé en deux, sera réparé et exposé à nouveau avec les autres distinctions reçues par le musicien durant sa carrière. RFI, 1h10, ici à Paris.